Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au menu de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. Deux coups de cœur ciné cette semaine. Le premier consacré au film La Tête Froide avec Stéphane Marchetti ainsi que Florence Loirecaille qui seront avec nous dans une poignée de secondes. Nos coups de cœur télé consacrés cette semaine à Sam, évidemment, qui a fait son retour la semaine dernière. C'est Fanny Gilles qui sera avec nous, alias Véro, dans la série. On va parler aussi de Benoît Gênant qui arrive vendredi sur TMC. À cette occasion, le réalisateur Éric Lavenne accompagné de Esteban et Ornella Fleury seront nos invités. Et puis on va parler également de notre gros coup de cœur ciné aussi cette semaine, Comme un prince. Ça sort mercredi dans les salles. Les deux producteurs Marie Jardinier et Yann Zenou seront avec nous, le réalisateur Ali Mariar. Et on aura le grand plaisir aussi de recevoir aujourd'hui Ahmed Silla et Mallory Wanek pour en parler. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine s'appelle La Tête Froide. Ça sort mercredi dans les salles. Et on a aujourd'hui Stéphane Marchetti, le réalisateur, qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être là. Et on a Florence Loirecaille, qui est l'héroïne de ce film, qui incarne Marie. Bonjour Florence et merci d'être là.
Bonjour.
On va y suivre justement ce parcours de Marie avec son amant policier qui essaye de se sortir de la galère en quelque sorte en trafiquant des cigarettes du côté italien. Voilà, les choses sont pas faciles pour elle. Elle vit dans un mobilhome avec l'hiver, le froid qui arrive. Et puis tout va basculer le jour où elle va se trouver sur le chemin de Suleiman en pleine nuit en revenant justement d'aller chercher des cigarettes en Italie. Et c'est là que voilà tout l'intérêt du film commence. Stéphane, d'où est partie l'idée déjà pour commencer? On va commencer par la genèse du projet déjà.
Le film est parti d'une image vraiment d'une femme dans la neige. Ça a vraiment été le point de départ de ce film. Alors avant ça, il y avait aussi le fait que j'ai réalisé un documentaire dans la jungle de Calais. Donc voilà, c'est des problématiques que je connais et que j'avais envie de poursuivre différemment. Et voilà, et il y avait dans un petit coin de ma tête, il y avait la fiction qui a toujours été là. Et du coup, c'était sans doute le moment d'y passer avec ce projet.
Alors, passer du documentaire à la fiction, voilà, c'est un exercice totalement différent, mais en plus avec des conditions de tournage quand même rudes, hein, à la montagne, hein, tous les réalisateurs le savent, c'est pas toujours évident et encore des fois moins pour les comédiens. Surtout que Florence, quand même, elle a mangé un peu pendant ce tournage, j'ai l'impression, de la neige, hein, notamment.
Pas du tout, ça s'est très bien passé pour elle. Elle a adoré.
Les effets spéciaux, franchement, ça fait des miracles.
Tout le film a été fait sur fond vert, bien sûr. Non, l'idée justement était vraiment de tourner dans les conditions réelles. Et j'avais bien prévenu mon équipe en disant voilà, je pense que le tournage va être un peu dur physiquement. Je pense que personne n'a été déçu du coup, mais c'est vrai que voilà, on tourne autour de 2000 mètres de nuit. On terminait souvent, il faisait moins 20 degrés. On a tourné pendant une tempête de neige. Voilà, toutes nos discussions hors tournage étaient liées à comment on protège nos mains et nos pieds. Mais c'est vrai que ça a été une aventure humaine très très forte.
C'est des cadeaux, des rôles comme celui de Marie, Florence, dans une carrière.
Oui. Non, c'est pas un cadeau. Si, non, mais c'est...
Vous allez voir le film, vous comprendrez que c'est... Alors, ça peut être un cadeau, effectivement, pour la comédienne, mais ça peut ne pas être un cadeau au tournage, effectivement.
Oui, non, non, mais après les conditions, voilà, on témoigne de quelque chose quand même qui est assez grave et après, les, effectivement, pour y arriver, c'est ça le travail en fait. C'est pas tous les jours qu'on reçoit ce genre de film.
Oui, c'est clair. Florence, comment on pourrait définir Marie justement, même si j'en ai déjà dit quelques mots en ouverture?
Oui, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus rien pour se sauver et qu'une rencontre inattendue a lieu? Voilà.
Cette rencontre avec le personnage de Souleymane, elle est évidemment très marquante dans le film et ce comédien aussi qui l'incarne d'ailleurs, qu'on va citer, il s'appelle hein, Sabo Baldé. Voilà, il est assez incroyable.
Il a une vraie présence. C'est sûr que quand je l'ai vu en casting, j'ai lancé la petite vidéo qu'on m'avait passée et là j'ai quelqu'un qui me regarde droit dans les yeux pendant 10 secondes, qui dit pas un mot et qui se met au bout de 10 secondes à parler. Enfin, je savais que c'était lui. Il a, je trouve, ce que j'ai beaucoup rencontré chez des gens à Calais, dans la jungle, c'est qu'il a ce côté d'enfantin qui a grandi trop vite sur la route. Voilà, par les épreuves qui l'ont fait vieillir beaucoup trop vite. Et il a vraiment ça. Et puis je trouve qu'il a une présence qui est intéressante parce que c'est un personnage qui est quand même un peu taiseux, qui peut même par moment un petit peu faire presque un petit peu peur. Et il fallait quelqu'un qui soit capable de l'incarner physiquement.
Pour lequel on ait de l'empathie malgré tout, en plus, et ça, c'est réussi.
Ça, oui, parce que c'est justement, souvent les migrants ne parlent pas trop de leur histoire, et à un moment donné, ils s'ouvrent justement à Marie, ils lui racontent un pan de son histoire qui est vraiment très, très intime, et je pense que c'est le signe qui a une confiance qui s'est instaurée entre eux, qui a une relation qui dépasse au début le simple fait de leur trafic. Ça devient vraiment autre chose. On passe d'un opportunisme à une espèce d'altruisme.
On sent Marie très émue par cette rencontre. Florence, elle, quand elle a rencontré Sabo, comment ça s'est passé?
Ah ben, bah, j'ai eu un coup de foudre. En fait, je l'ai rencontrée pour une lecture et il n'y avait rien à faire. En fait, il y avait juste à être là et à l'écouter. Donc, c'est un acteur dont vous allez entendre beaucoup parler, qui a fait de grands films.
Il faut imaginer que voilà, Souleymane, on va pas trahir un secret en disant que lui il est passé en France du coup et qu'il a une seule obsession, c'est retrouver sa sœur. Et ça va être un peu sur ça que va reposer le film, c'est comment va-t-il faire pour y arriver, jusqu'où il est prêt à aller justement pour arriver à ses fins et retrouver voilà sa famille aussi. C'est ça qui crée voilà aussi ce phénomène qui nous rend une empathie envers un personnage qui est indéfectible du début à la fin, quoi.
Ce que je trouvais justement intéressant dans le parcours du personnage de Souleymane, c'est qu'il a été à la fois victime des passeurs et à un moment donné il en devient un pour une raison justement qui a retrouvé sa petite sœur. Mais cet aspect-là était vraiment quelque chose que je trouvais intéressant.
On va écouter la bande-annonce, La tête froide, ça sort mercredi dans les salles et on revient juste après avec vous. On va parler peut-être des scènes qui vous ont le plus marqué, notamment avec vous Florence, et celles qui ont été peut-être le plus difficiles à tourner, où vous appréhendiez le plus, peut-être Stéphane, juste après ça, on écoute.
Come al solito?
Sì.
C'est toi qui vois les clubs?
Ouais.
Combien?
150. J'ai plus d'électricité ni d'eau.
Madame Peretta, vous me devez 1 500 € depuis des mois pour votre emplacement.
Je peux te prêter un peu d'argent si tu veux.
Non, c'est gentil. Tu fais déjà beaucoup.
Je crois que t'es mal placé pour me faire la morale, maman.
Il était dans la route, hein. Je me suis dit qu'ici on pouvait l'aider.
Ah bah oui, vous avez bien fait. What's your name?
Souleymane.
Souleymane.
Allez, de retour, notre spécial à tête froide avec Florence Loiricaille et Stéphane Marchetti qui sont avec nous. Florence, on va aller justement sur les scènes peut-être qui ont été les plus difficiles, celles que vous appréhendiez le plus. Je pense à cette scène de tempête de neige qui est juste, qui a dû être assez compliquée peut-être à tourner. Mais en tout cas, nous, on l'a vécu. On se disait bah, vraiment, on va espérer qu'ils se sortent de là. Mais on imagine les conditions de tournage, quoi. Ça a dû être compliqué.
En effet, oui. C'était une vraie tempête. Et on est parti assez loin dans un endroit assez isolé. Et ensuite, c'est du documentaire, quoi. Je me rappelle être parti vers le blanc parce que la caméra était derrière. Je vais m'éloigner et en fait, tout était blanc. Il y avait plus de le ciel, la terre. Et je me retournais et je voyais Sabo dans la neige et Le plus éprouvant, c'est quand j'ai dû effectivement le soulever pour le faire marcher. Où là, ben vraiment, je l'ai. C'était du documentaire aussi. C'est à ce moment-là qu'on éprouve vraiment qu'on est au cœur du film en fait. Elle va le porter aussi quoi.
Et essayer de sortir de là. Comment se sortir ces personnages qui sont abîmés de différentes façons, on le verra, que ce soit Marie ou Suleyman, qui ont un passé voilà parfois difficile, même si on peut pas forcément comparer voilà les deux passés que vivent nos personnages, mais on a l'impression qu'en tout cas ils se sont trouvés et cèdent en tout cas tout le long du film. Voilà, c'est ce qu'on verra. Il y a un réalisme. Alors je comprends mieux effectivement avec le passé du documentaire, mais il y a un réalisme très saisissant en tout cas dans ce film. Ça, c'est hyper intéressant à voir.
Je voulais vraiment, dans l'image du film avec mon chef-op Sébastien Gopfer, on tenait vraiment à ce que le film soit sur une ligne de crête entre quelque chose de très réaliste, mais en même temps une identité formelle qui où le cinéma vraiment irrigue l'image en permanence. Mais voilà, je voulais pas forcément faire quelque chose de très naturaliste. Mais que par exemple les décors, l'ambiance, l'atmosphère, tout serve justement à raconter, à faire naître et grandir une tension pendant le film. Et c'est vrai que les décors s'y prêtent complètement quand on est dans cette montagne à 2000 mètres ou qu'on est dans une perte de repères, on se retourne tout autour de nous, il y a que du blanc. Ça peut devenir effrayant là. À ça que je trouve vraiment très fort, c'est que vous pouvez vous promener en montagne, il fait bleu, c'est vraiment des décors à couper le souffle. Un nuage arrive, tempête de neige, et ça devient l'enfer sur Terre.
Alors, il y a un décor qui est presque un personnage à part entière, c'est ce mobilhome, qui est un peu le symbole aussi des difficultés que vit le personnage de Marie. Comment on arrive à introduire une équipe technique dans un endroit aussi exigu pour tourner autant de scènes? Stéphane, quelle parade on trouve?
On a fait des miracles. C'est vrai que des fois on devait être 10 dans le mobilhome. Non, il y avait on a quand même réduit vraiment au strict minimum les gens qui étaient dans le mobilhome, mais il y avait tout le reste de l'équipe qui était dehors. Mais c'est vrai que c'est des endroits très très exigus. Après, c'était quelque chose aussi qu'on cherchait. On sur la première partie du film, on est souvent très près des personnages dans des endroits exigus, qui peuvent être le mobilhome ou les voitures ou des choses comme ça, pour que la deuxième partie justement s'ouvre et qu'il y ait un espèce de contraste avec l'immensité de la montagne.
Florence, comment vous êtes préparée au rôle? Est-ce qu'il y a une préparation physique justement avant de vivre un tournage à la montagne comme ça avec le froid? Est-ce qu'on lit des livres aussi sur peut-être ce que vivent aujourd'hui dans la jungle de Calais notamment, mais les migrants, comment on se prépare à aborder Marie?
En ne se préparant pas. En ne se préparant pas à ce qui peut se passer.
Chacun sa technique. Hein.
Oui. Oui. Je ne suis pas du tout montagnarde. Physiquement, j'ai pas grand-chose à voir. Mais non, c'est la première fois que je tournais en montagne, en fait, et dans la neige. Et je me suis dit, non, comme Stéphane vient du documentaire, je me suis dit, je prépare rien, je vais voir.
Je fais confiance.
Oui, je vais voir, je vais faire du direct, en fait. Je vais enregistrer du direct.
Voilà, un peu comme là. En tout cas, La Tête Froide, ça sort mercredi au cinéma. On termine par vos projets. À tous les deux, Florence, on va vous voir dans d'autres choses, là, 2024, dans ces 6 premiers mois qui arrivent, théâtre, télévision, cinéma.
Oui, j'ai terminé une série pour Apple qui s'appelle La Maison. Et après, d'autres films, mais je connais pas les dates de sortie.
Qui vont arriver bientôt. Stéphane, est-ce qu'on pense déjà à la suite, alors que là, ce film-là, dans 2 jours, appartient au public?
Là, je suis dans une phase effectivement encore où j'accompagne le film et la sortie du film. Et oui, il y a forcément, je commence à avoir un peu plus de temps dans ma tête pour réfléchir un petit peu à la suite. Mais c'est vrai que les films sont quand même des moments qui sont très, qui vous prennent un peu toute votre existence. Il faut à un moment donné en sortir pour pouvoir commencer à envisager ce qu'il va y avoir après. Pour l'instant, c'est il y a des envies, mais il n'y a encore rien de très concret. Une fois que le film sera sorti, j'aurai sans doute un peu plus de temps pour me poser et réfléchir.
La tête est chaude pour l'instant, il faut attendre qu'elle se refroidisse.
Tout à fait.
Merci beaucoup Florence, merci beaucoup Stéphane, et puis on vous dit à bientôt. En tout cas, allez voir ce film, il est magnifique en plus.
Merci beaucoup.
Allez, dans un instant, Fanny Gilles, notre spécial Benoît Gênon, et puis notre spécial Comme un prince en fin d'émission avec Ahmed Silla, Mallory Wenneck, Ali Mariard et les producteurs. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Y'a des hauts, y'a des bas dans la vie, au fond tant qu'on s'en sort. Autrefois tu t'es mouillé pour moi, pourtant t'étais d'accord. Non, t'es pas...
prends pas la tête. C'est passé dans ma tête. On se recroisera peut-être. Je dois remplir mon assiette. Plus le temps passe, plus je les ignore. Plus le temps passe. C'est compliqué. Je crois bien que je suis piqué. C'est compliqué. Allez viens, je vais t'expliquer. Tous les jours des galères, je m'en remettrai. T'en fais pas, c'est cool. Et si tu te fais du souci pour moi, ne t'en fais pas, ça roule. C'est compliqué. Je crois bien que je suis piqué. C'est compliqué. Allez viens, je vais t'expliquer. Tous les jours des galères, je m'en remettrai. T'en fais pas, c'est cool. Et si tu te fais du souci pour moi, ne t'en fais pas, ça roule.
Je les entends parler, je garde le silence même quand j'ai raison. J'avance les yeux fermés quand je vois des nuages à l'horizon. Je suis dégoûtée des gens qui cherchent à m'éviter. Tu dis que c'était à ma portée. Moi je dis que tout ça c'est mérité.
C'est compliqué. Je crois bien que je suis piquée. C'est compliqué. Allez viens, je vais t'expliquer. Tous les jours des galères, je m'en remettrai. T'en fais pas, c'est cool. Et si tu te fais du souci pour moi, ne t'en fais pas, ça roule. C'est compliqué. Je crois bien que je suis piquée.
Trouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Sam qui a fait son retour lundi dernier dans Chute on écoute la télé avec Hélène de Fougerolles et Aline Panel. Et bien cette semaine, on va parler du personnage de Véro. On le disait, elle est là, Fanny Gilles, chose promise, chose due. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Merci d'être là, Véro, elle est là depuis la première saison. C'est une historique de la série avec Charlotte Gassio. Justement, toujours autant de plaisir. Et puis là, vraiment un renouveau total pour Sam. Là.
Pour la série, ouais, il y a un renouveau total et heureux. Parce que Hélène, elle fonctionne tellement bien et en plus humainement, c'est un bonheur de travailler avec elle. Donc on a ce renouveau et en même temps, elle se glisse dans le rôle.
Dans la veste en cuir, parfaitement.
Elle se glisse parfaitement avec élégance et bienveillance et douceur et personnalité et ça marche bien. Hein.
Ce qui est chouette, c'est qu'avec Véro, on ne sait jamais à quel petit coup bas s'attendre, mais toujours quand même. Alors je vais pas dire forcément avec gentillesse, mais elle, c'est un personnage qui est tellement attachant malgré tout.
Moi, je l'adore. Moi, j'adore parce que je trouve qu'au fond elle met elle aussi beaucoup de bienveillance dans les choses. Alors après, elle est heurtée par beaucoup de choses, Véro, parce que finalement, elle a un peu des principes. Elle est heurtée de moins en moins quand même, hein, par rapport au début. Hein. Elle s'est quand même adoucie. Et alors, les piques, elles sont devenues un peu plus légères. Et au fond, se développe dans cette saison une relation un peu plus amicale entre elles, un peu plus complice. Et vous allez le voir de plus en plus. Donc, il y a des petites piques dans cette première saison qu'on a vues, mais en même temps, il y a une vraie relation qui va commencer. Se développer.
Ça démarrait mal quand même lundi dernier. On a toujours l'impression qu'elle est un peu sur les traces des ex de Sam, hein, Véro.
Alors oui, mais
elle y a dit d'ailleurs hein, la semaine dernière.
Oui, elle lui a dit, mais elle le choisit pas forcément en fait, parce que son histoire avec Xavier, elle lui était un peu tombée dessus. Là, c'est quand même Laurent qui a quand même fait le premier pas. Elle, donc oui, il se trouve que, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment un choix. Vous croyez que c'est un choix de sa part?
Bon, ça lui tombe dessus.
Ça lui tombe dessus. Après, elle résiste pas beaucoup, hein. Et elle doit probablement quand même un peu frétiller de plaisir à l'idée quand même de lui piquer, peut-être. Hein. Il y a une espèce toujours de rivalité, mais c'est pas forcément un plan à la base, je crois.
Ouais, c'est vrai que c'est une espèce de petite rivalité qui est entretenue avec Sam depuis le tout début, hein, mine de rien de la série entre elles, que ça soit à Franconville à l'époque. Mais vos scènes sont toujours assez jouissives quand même, toutes les deux, avec le personnage de Sam, que ça a été avec Mathilde au départ, ou Natacha, et maintenant avec Hélène.
Oui, toujours. Et moi, j'ai toujours pris un plaisir très vif, en fait, à les tourner. Et que ce soit, effectivement, avec toutes les actrices, en fait. Les auteurs, on a la chance, en fait, que les auteurs nous concoctent des scènes et des dialogues toujours... réjouissant en fait. Et cette rivalité entre les deux personnages, moi j'adore.
T'avais eu l'occasion de voir Rita, toi, la série originale ou pas? Et de voir ton équivalent?
Ouais, j'ai vu les premières saisons en fait. Et elle était moins... Enfin, on était moins dans un affrontement comme ça ouvert. Et moi j'ai adoré la série Rita, hein. C'était vraiment bien. Hein. Et nous, après, nos personnages, ils sont un peu différents. Le mien, en l'occurrence, il est un peu plus franc du collier, quoi. Après, j'ai pas regardé la suite. Après, j'ai oublié un peu. Et puis, c'est vrai que nous, on se détache un peu aussi de Rita. Il y a une vraie identité, Sam. Et c'est chouette, Sam aussi.
Et donc, dans cette nouvelle saison, ben, Véro se met au vert aussi, hein, du coup. Hein. Tout le monde, hein, vient se mettre au vert à la campagne, là.
Bah, du coup, ouais, elle se met au vert. Elle vient aussi pour sa fille, pour être près de son père. Et finalement, elle y est bien. Et c'est vrai que c'est chouette parce que ça permet, du coup, de recréer le clan, de recréer plein d'occasions, de scènes, etc. Et tout, et c'est chouette.
C'est agréable, justement, d'aller tourner un peu la campagne, de sortir de Paris et tout. Ça vous a donné un nouveau souffle aussi?
Ouais, d'abord, ça donne un nouveau souffle et aussi à l'image. Parce que je trouve que c'est vraiment chouette et ça crée une autre ambiance. Et je trouve que c'est, et dans ce qui se passe entre les personnages et à l'image, c'est très beau. Et en plus, moi, j'habite à côté.
Oui, donc ça aide, c'est bien ça.
C'est génial. Je ne vais plus faire 1h30 de route pour aller à Franconville. Je suis à 10 minutes. Donc c'est génial. J'adore. Et c'est super beau là-bas.
C'est la locale de l'étape, quoi.
Je suis la locale de l'étape, absolument.
Bon. On va voir en tout cas qu'à la fin des deux épisodes qu'on a vus lundi dernier, bah, elle a ouvert son cabinet. Mais elle tourne toujours quand même un petit peu autour de Xavier quand même. Hein.
En tout cas, Xavier semble le croire. Hein. Xavier le croit dans ce qu'on a vu lundi dernier.
Alors lui qui a un peu un melon surdimensionné dans cette nouvelle saison en plus, hein, avec son best-seller.
Ouais, c'est ça, avec son best-seller. Et en fait, en tout cas, lui, il a l'air de penser que Véro, elle est là, elle est revenue pour lui. Véro, lui, quand même, lui affirme que absolument pas. Et pourtant, cette saison, elle va être quand même un peu, pour Véro, un peu amoureuse quand même. Alors, je vais pas tout vous dévoiler. On a vu aussi un truc avec Laurent. Je vous dis pas tout. Mais Véro, elle s'ouvre aussi et ça lui fait du bien.
On a l'impression que c'est quand même une éternelle amoureuse.
Moi, je crois. Mais moi, je crois et je pense.
Moi aussi.
Moi, je pense qu'elle a aimé Xavier. Moi, j'ai toujours l'impression que personne ne l'a aimé aussi bien que Véro. Véro, elle était éperdument amoureuse de lui. C'est une histoire très forte pour elle.
Elle s'est battue, hein, pour l'avoir.
Elle s'est battue pour l'avoir. Puis je pense qu'elle l'aimait vraiment profondément. Elle le connaissait. Elle aimait pour qui il était, etc. Bon, après, avec l'histoire de l'enfant, ils se sont séparés. Mais après, ils ont des choses profondes en commun. Je pense qu'à vie, ils sont
liés.
Ouais. Mais une grande amoureuse, Véro. Bien sûr, même si c'est aussi une râleuse et c'est aussi une frustrée, parfois grande amoureuse. Je suis d'accord avec vous.
Merci en tout cas, Fanny, d'avoir été avec nous. Sam, c'est ce soir. La suite à 21h10 sur TF1. Ne le rate pas. Merci, à bientôt.
À bientôt. Et oui, ne le ratez pas.
Alors, je vous ai manqué? Mais elle revient pour de vrai?
Oh là là, c'est tendu la rentrée.
La priménopause.
Mazel tov! C'est la meilleure période de la vie qui arrive. Oh, mais si, c'est merveilleux. Oh, la libido repart comme en 40. Moi, avec Alain, c'est la folie, hein.
C'est pour ça que vous l'avez laissé tout seul à Caracas, hein.
Mais il avait besoin de récupérer. Allez, bonne journée.
Sam, nouvelle saison, prochainement sur TF1.
Allez, c'est notre spécial Benoît Gênant officiel et qui va commencer puisque ça débarque sur TMC, nouvelle fiction, nouvelle série, menée de main de maître par Éric Lavenne, le réalisateur qui est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Et qui va te rejoindre dans un instant avec bonne humeur avec Ornella Fleury et Esteban qui seront avec nous. Benoît Gênant officiel, c'est un ovni, mais qu'on rit et on rit de bon cœur et ça fait du bien.
Eh ben c'est bien, bah écoute, écoutez, c'est un peu le but, quoi. C'est moi j'ai une passion pour les sitcoms et pour les séries de comédies qui font rire. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec Artus et ses amis.
Alors on est vraiment dans le contexte d'une agence immobilière où c'est du grand n'importe quoi.
Alors, ouais, l'agence, elle est dirigée par Benoît Génan.
C'est son nom de famille.
C'est son vrai nom. C'est pas lui qui a créé l'agence, mais en fait, il était coursier et le jour où l'ancien patron de cette agence immobilière est mort, il a falsifié les papiers. Il est devenu, donc Benoît est devenu patron de cette agence. Et Benoît est fan de Stéphane Plaza, qui pour lui est le dieu de l'immobilier, et il se dit, Stéphane a réussi grâce à la télé, moi je vais réussir grâce aux réseaux sociaux. Donc il est très connecté, Benoît Génan. Stupide et connecté.
Stupide et connecté, c'est très bien. C'est deux adjectifs qui vont parfaitement bien. Et il faut dire qu'il a deux acolytes qui sont parfaits, puisqu'on va voir arriver Ludivine qui arrive dans un monde. Elle se demande où elle arrive, hein, il faut le dire quand même. Et il est accompagné de son fidèle écuyer Francis pour le meilleur et pour le rire.
Voilà. Le problème de Benoît Génan, c'est que bon, il a une forme de stupidité, mais il est encouragé par son cousin Esteban, qui est fan de lui. Parce que quand vous êtes con, à un moment, les gens vous disent, non, tu peux pas continuer comme ça, et tu t'arrêtes. Mais le problème, c'est quand vous avez un mec qui applaudit à chacune de vos conneries, ça vous encourage à aller encore plus loin. Et le seul élément sensé, c'est l'élément féminin, c'est joué par Ornella Fleury, qui était au chômage, était dans une boîte d'événementiel, elle est rentrée dans cette agence immobilière, elle a besoin de bosser, et du coup, elle supporte, elle avale des kilos et des kilos de couleuvres pour rester dans cette agence.
Comment est venue l'idée, Eric?
Alors, l'idée, elle est venue, en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, le thème de l'immobilier, c'est un thème, on va dire, très prégnant dans la société. Là, il y a quelques jours, j'étais dans une petite station balnéaire très populaire qui s'appelle le Cap Ferret. Vous pouvez, pour moins de 3 millions d'euros, avoir un cabanon. Et les gens ne parlent que d'immobilier. C'est-à-dire que vous allez à un dîner, on vous parle de, il y a première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, on ne parle que de ça. Et
vous en millions d'euros, évidemment, hein. Les 100 000 n'existent pas là-bas.
Non, là, vous n'avez rien. Ça, c'est les locations. Mais, c'est le Cap Ferret. Mais vous avez également, il y a quand même des chaînes entièrement dédiées à l'immobilier. Je pense notamment à cette chaîne Plaza TV, qu'on appelle aussi M6, où il y a que des émissions d'immobilier. Donc, en fait, ça passionne les gens, l'immobilier. Et l'autre intérêt de l'immobilier, c'est un peu comme, moi, je m'étais occupé de la série H il y a au 20e siècle. L'hôpital, vous voyez tout le monde, et l'immobilier, vous voyez tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez fourguer aussi bien une chambre de bonne à un étudiant qu'un duplex à Bernard Arnault. Et également, c'est un peu le syndrome chauffeur de taxi qui, une fois par an, prend des vedettes. En immobilier, vous rencontrez des gens connus qui ont besoin de se loger. Et donc, c'est le petit côté 10% de la série Benoît Génan officielle où vous avez des vedettes, comme Dubosc, François-Xavier de Maison, qui jouent leur propre rôle.
Et Mathilde Seignier qui vient pour acheter un appartement et se retrouve face à un Benoît Génan très gênant.
Et un problème d'eau chaude.
Si avec ça, encore. T'arrives derrière Combo à garder ton calme. Ou alors ça t'entendait pouffer dans tous les sens. À un moment donné, t'es obligé de dire au technicien, arrêtez, parce que mais je sais pas comment vous avez fait pour garder votre calme. Il y a certaines séquences, mais c'est à hurler de rire.
Non, pour moi, je me méfie toujours des rires sur le plateau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rires chez le spectateur. Et en fait, quand on a écrit une séquence, qu'on la répète, qu'on la tourne, il y a un moment, l'effet comique baisse un peu. Donc en fait, mais j'aime bien. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on cabotine sur le plateau. Et de temps en temps, on a envie de rire. C'est vrai qu'il y a surtout quand il faut beaucoup se méfier, c'est quand les comédiens rajoutent des choses qui sont nouvelles, donc qui nous amusent parce que c'est la nouveauté, mais qui ne sont peut-être pas essentielles et qui sont peut-être moins bonnes que ce qu'on avait fait avant. Donc le seul petit truc que je vois, c'est que effectivement, quand vous voyez le Perchman qui se retient de rire ou un machinot qui a envie de se marrer, vous dites tiens, j'ai peut-être un truc drôle. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous riez sur le plateau qu'à l'arrivée ça va être drôle. Donc je préfère qu'il y ait une ambiance de merde et qu'à l'arrivée les gens s'amusent dans la salle. Pas dans la salle, à la télé. Ça c'est le syndrome cinéma, pardon.
Artus, une évidence.
Artus, moi j'ai pas rencontré un comédien comme ça depuis très longtemps. C'est incroyable. Il a un potentiel comique et ce potentiel de comédie vient aussi de son expérience globale puisqu'il a fait des rôles dramatiques, tout le monde l'a vu dans le Bureau des légendes. Il est juste, il est créatif et vraiment cette justesse est fondamentale parce que pour jouer Benoît Génan, qui est vraiment gênant et qui fait n'importe quoi, il faut quelqu'un qui ancre son rôle dans une certaine réalité. Et pour ça, Artus y arrive. Il y a pas d'effet de manche, mais je trouve vraiment, c'est un comédien qui est prodigieux de justesse, d'inventivité, parce que ce qui est bien, c'est qu'il prend mes textes et puis qu'il les remet à sa sauce et il rajoute des choses très bien. Donc,
il se les approprie.
Ah oui, je les approprie, mais c'est vraiment un mec sympa parce que on a tourné pendant 3 mois et à aucun moment il a eu d'humeur, parce qu'il y a rien de pire pour un réalisateur auteur quand les comédiens disent non, ça c'est pas drôle, ça va pas, c'est nul. Il y a des moments où c'était plus ou moins bien, mais il m'a jamais mis à mal, quoi, parce que sinon si on vous dit ça c'est pas drôle, vous êtes sur le plateau en train de régler 100 000 trucs pour retrouver quelque chose de drôle, c'est l'enfer. Et Artus a vraiment été un très très bon camarade pendant le tournage.
On va découvrir ça en tout cas avec grande impatience. Il y a 12 épisodes, hein, je crois. Hein.
12 épisodes. Quand TF1 m'a dit « t'en veux combien ?», j'ai dit 12. Et je dois dire que quand j'ai écrit les 10 et qu'il y en avait encore deux autres à écrire, je me suis dit « mais pourquoi j'ai dit 12 ?» Et j'ai vécu, pour moi, ça a été le, par rapport au cinéma, c'était un tournage, mais l'enfer, parce qu'on a commencé à tourner, c'était en novembre, et je me levais à 5h du matin parce que j'écrivais 2h le matin pour écrire les épisodes qui manquaient, à savoir l'épisode 11 et 12. Donc j'ai vécu, pour moi ça a été une période intense et moyennement agréable en fait. L'écriture c'est quelque chose de très angoissant parce que si vous trouvez pas, ben vous avez rien.
Bon, et du coup tu vas prendre un peu de temps, s'il doit y avoir une saison 2.
Alors voilà, s'il y a une saison 2 avec Artus, c'est Artus qui a proposé ça, et on ferait Benoît Gênant à Saint-Tropez, qui ouvre une agence à Saint-Tropez. C'est vrai que j'ai une vision de Benoît Gênant dans un tout petit Zodiac en train de taper sur la coque d'un yacht, en train d'essayer de fourguer sa carte de visite. Je pense que là...
Il y a un truc,
et d'autant plus que Artus, par rapport à la saison 1 de Benoît Gênant, Artus a perdu une quarantaine de kilos, donc maintenant il a envie de montrer ses tablettes de chocolat. Donc ce serait parfait si on allait tourner dans le sud et au soleil.
Benoît Gênant officiel, la série débarque sur TMC pour notre plus grand plaisir. On va écouter la bande-annonce, Eric, et puis on va revenir juste après avec Esteban et avec Ornella Fleury. Merci à toi.
Merci
et à bientôt.
Merci à toi, c'est sympa. Merci.
Ce mec, c'est le Mbappé des agents.
Vous nous aviez bien dit que l'appartement était libre.
Ah oui, il est libre.
Ce mec, c'est le Mbappé des agents immobiliers.
Là, enfin là, on va libérer. Là.
Benoît Gênant. Gênant, c'est son nom.
Oui.
Ça veut rien dire. Regarde David Douillet.
Allez, casse-toi.
Je vis immobilier, je mange immobilier, je respire immobilier.
Ah, moi aussi je vais vous apprendre des trucs, hein.
Ça fait une demi-heure que j'attends.
L'exactitude et la politesse des yeux.
BGIMO, bonjour.
On n'est pas une agence comme les autres.
C'est une petite pépite.
Tout a été refait à neuf, comme vous pouvez le voir.
On a un petit truc en plus.
C'est pas comme ça que vous dites bonjour dans le showbiz. Faut être prêt à tout
pour obtenir le mandat.
Mais qu'est-ce que c'est? Tu vas faire ce qu'on te dit, d'accord? Pourquoi t'ouvres le champagne? Oh, il a pas signé encore, ça porte malheur.
C'est quoi?
C'est une école maternelle.
Vraiment trop bruyant. Ouais. C'est une école, c'est la vie, c'est bruyant. La vie, ça fait du bruit.
Ce mec, c'est un génie.
C'est quoi votre métier au juste?
Oh, je suis touche à tout, moi.
Allez, on continue à parler du lancement de Benoît Gênant officiel après Eric Laven. Eh bien, nous nous retrouvons avec Esteban, alias Francis, et Ornella Fleury pour la première fois dans Chut, on écoute la télé. On est très heureux de t'accueillir, Ornella, dans le rôle de Ludivine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Hello, comment ça va, Chut, on écoute?
Écoute, on se quitte plus cette année. C'est un véritable plaisir de vous avoir, surtout pour cette série, parce qu'on a besoin de rire en ce moment, peut-être plus que jamais. Mmh. Et là, c'est la série vraiment pour rire sur TMC. On va beaucoup rigoler, évidemment.
Pour rire.
Non. Ça y est, c'est parti. Non, mais parce que... Il faut pas faire d'amalgame.
Pour que tu défonces la série, ça va, quoi. Hein, déjà que c'était assez humiliant de jouer là-dedans, dans cette série bizarre. Alors si en plus tu dis qu'elle est pourrie à notre place, tu vois, on va pas
plus du tout. Non mais franchement, vous allez rire. C'est la série, il fait du bien. Voilà. Et Artus, il donne tout, évidemment, puisqu'il joue le rôle de cet agent immobilier improbable. Et puis avec Francis, son fidèle écuyer, maladroit, qui comprend jamais grand-chose, mais qu'on aime tant, hyper attachant. Et puis on est là, Ludivine, qui vient d'arriver comme ça, qui arrive à l'agence pour se faire embaucher. Elle va arriver dans un monde qu'elle ne comprend pas beaucoup, parce que elle est complètement dépassée. Elle se dit, mais où j'arrive là?
Ah bah oui, elle arrive chez les fous, clairement. Bah parce que c'est vraiment improbable entre Benoît et Francis. Je pense que ouais, là, elle pouvait pas tomber mieux. Et pour elle, c'est hallucinant d'être aussi peu professionnelle. Et en fait, d'aussi peu s'occuper de cette agence, qu'en fait, on ne vend aucun appartement, on fait des visites, mais on sait pas trop ce qui se passe. Donc ouais, pour elle, c'est lunaire, ce qui se passe, vraiment.
Elle est même en état de sidération par moment, hein, ça se voit.
Bah, constamment, elle est assez consternée souvent.
Mais quand j'y pense, je trouve que ça donne envie de se dire, ah tiens, ce serait cool d'aller à un boulot où c'est vraiment n'importe quoi, où tu bosses plus du tout, où en fait tu fais semblant de bosser, mais tu fais un peu que de la merde toute la journée. Et je me dis, ah tiens, peut-être est-ce une bonne idée pour le futur?
On sait pas, ben voilà, en tout cas, qu'est-ce qui vous a plu à tous les deux dans ce projet?
Moi, vraiment pas grand-chose, hein, à part les cachets.
Les cachets. d'aspirine, Doliprane.
Doliprane.
Il m'en fallait beaucoup. Ouais. Il m'en fallait beaucoup. J'ai demandé beaucoup de cachets pour pouvoir. Non, c'est que vraiment, à la lecture, vraiment, ça donnait pas envie. Et ça, c'est ce qui donne envie.
Tu sais pas trop où tu t'embarques et puis ouais. Tu dois composer un personnage à ton image, évidemment. Mais Esteban.
Là, elle est beaucoup plus positive.
Oui, parce que non, c'est que je suis pas d'accord parce que moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Moi, à la lecture, j'ai trouvé ça hilarant. Vraiment, c'est très rare quand je lis un truc et que vraiment, enfin, ça te provoque des vrais rires comme ça à la lecture. Donc moi, je trouve que ça donnait trop envie. C'est vrai que cet univers complètement absurde. Moi, c'est ça que j'adore, c'est mon humour à 100%. Donc, moi, j'ai trouvé ça gênant, mais ce malaise-là, moi, me fait pleurer de rire. Donc, moi, j'ai eu envie tout de suite, comme ça.
Oui, moi aussi.
On pleure de rire en regardant.
Ouais. Mais ça m'a fait pleurer d'abord. Ensuite, j'ai pleuré de rire. J'étais vraiment partagé. Hein.
Mais vous arrivez à garder votre sérieux. Franchement, il y a certaines scènes qu'on voit, mais c'est tellement gros. Mais vous arrivez à garder votre sérieux quand il faut tourner ça.
Non, mais ça, c'est vraiment la particularité de ce tournage. C'est que moi, j'ai rarement vu autant de fous rires pendant un tournage. Et je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, il n'y a pas une caméra cachée pour filmer les à côté du tournage? Parce que, enfin, franchement, c'était rare qu'on n'ait pas un fou rire dans la journée. Et on se disait même, ah tiens, à quel moment il va arriver le fou rire, ouais, aujourd'hui, exactement. Quoi. Mais bon, ça a duré les 5 premiers jours et puis ensuite le tournage était glauque.
N'importe quoi. Non, mais il a raison. D'ailleurs, c'est vrai que c'est très dur de garder son sérieux. Moi, particulièrement parce que je suis en scène sérieuse dans la série et c'était hyper dur d'être face à eux deux et de ne pas rigoler. Et j'avoue que j'ai sûrement le rire facile. Mais vous êtes marrant en même temps. Mais souvent, les fous rires, ça partait d'Artus et moi, on va dire. Esteban, il est plus difficile à faire rire. Quand même.
Non, mais vous m'avez fait craquer. Je dois avouer que.
Quand on a réussi à le faire rire, on était trop heureux. Non, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup ri et c'est vraiment la particularité de ce tournage. C'est ça, on se disait, mais putain, en fait, on rigole tout le temps. Non, on rendrait quand même les scènes qu'il fallait et tout, mais c'est vrai que c'était.
Mais
c'était
moi, c'est pour ça que j'étais même moi-même gêné pendant le tournage parce que je me suis dit, ah, mais si on rit autant, bah, il y a un vieil adage qui dit on rigole au tournage et on pleure au montage. Et je me suis dit, ah, bon, on est vraiment en train de faire vraiment de la merde. Et je me suis dit, c'est pour ça que j'essayais de pas trop rire et en même temps, j'arrivais pas à me retenir.
Bah, la fois, vous étiez sous la houlette d'un professionnel, Éric Lavenne, quand même. C'est un des monuments de la réalisation de comédie en France et vraiment, ça pouvait donner que quelque chose de vraiment chouette.
Et c'est ce que j'ai réalisé, c'est qu'au final, c'est peut-être un des professionnels de la comédie qui exerce depuis le plus longtemps parce qu'il a commencé au Colaro Coco Show.
Voilà. C'était le moment sérieux. C'était le moment sérieux.
Il y avait une info, il y avait la bio d'Éric Lavenne.
Ouais, voilà. Non, mais c'est quand même ouf de se dire, ah tiens, quand même, c'est le gars, il a commencé dans les années 60, quoi, à faire des blagues.
Bon, 80, calme-toi, parce que j'ai connu le Colaro Coco Show, je l'ai connu, hein, calme-toi.
C'est le trait un petit peu pour dramatiser tout ça.
Ouais, mais tu viens de me vieillir de 20 ans. on est là. Comment tu la vois, toi, Ludivine?
Bah, moi, je dirais que c'est, en fait, c'est une fille plutôt normale, c'est-à-dire comparée aux autres. Elle, c'est une nana normale, qui a perdu son boulot, donc je pense, elle est un petit peu, elle arrive un peu, pas en déprime, mais pas dans un super moment de sa vie non plus. Elle a trouvé staff qui, bon, bah, il fallait bien qu'elle trouve un boulot.
Ça lui redonne un peu de baume.
Ça lui redonne, pas tout de suite.
Non, ça... non, ça la replombe.
Ça met ouais, un petit peu de temps, exactement. Temps, ça la plombe encore plus. Et en fait, elle va se prendre un peu au jeu des deux zigotos, même si le démarrage est un peu technique. Et pour elle, en fait, c'est juste que elle a tellement pas l'habitude qu'au boulot, on puisse être aussi bah, peu professionnel, que c'est vrai que pour elle, ça lui fait c'est un peu un choc au début. Et puis finalement, puis elle a sa copine avec elle, Nina, qui, elle, est à fond sur les deux, là, et que ça la fait marrer que ce soit tout le temps le bordel et tout. Et donc, en fait, elle va se prendre au jeu et tout ça, puis au final, elle va les trouver attendrissants et en fait, elle a plus envie de les aider qu'autre chose.
Et on doit saluer quand même Ornella qui a une palette de gènes hyper large, alors qu'on se dit, bah, en fait, elle est tout le temps gênée à tous les épisodes et à toutes les minutes où on la voit à l'écran. Mais quand même, à chaque fois, elle varie la gêne.
C'est gentil, ça.
Ce qui est original.
C'est gentil, bah, ça me fait plaisir.
Varie la gêne, ouais, c'est ça, exactement.
Varier la gêne à ce point.
Eh ben, je c'est en vous regardant. Hein. Vous m'avez pas provoqué à chaque fois la même gêne, et ça, c'est extraordinaire.
Ah oui, c'est une gêne en fonction du registre de la gêne.
Écoute, c'est de l'écoute.
Ok.
Voilà, okay. Oui.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin pour cette spéciale, en tout cas Benoît Génant officiel. Ça arrive sur TMC. Merci Ornella, merci Esteban d'avoir été avec nous en tout cas pour en parler.
Merci, Chut, on écoute la télé.
Merci beaucoup pour ma première. À bientôt.
À très vite, j'espère bien. Allez, grande spéciale comme un prince dans un instant. Les deux producteurs, Yann Zeno, Marie Jardilier, sont avec nous. Ali Mariard, le réalisateur, et Ahmed Silla et Mallory Wanek nous rejoignent. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien, qu'on devrait vivre sans penser à demain, qu'on n'a pas le temps du malheur, qu'on n'a pas le temps pour le malheur. Tu n'as pas de livre sur ton étagère, tu ne connais ni ton nom ni ton père, qu'on a le droit au bonheur, qu'on a le droit au bonheur. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Oh. Au fond de toi, tu es encore un enfant, qu'il existe un endroit au bord de l'océan, où le projet c'est l'espoir, où le projet c'est l'espoir. Tu dis qu'il faudrait débrancher des villes, qu'il suffit d'avoir un arbre quelque part, qu'on pourrait atteindre l'autre rive, qu'on pourrait atteindre la rive. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Dernière chance avant que ne s'efface notre enfance, qu'on a attendu le bonheur, qu'on a attendu le bonheur. Tu dis que nous sommes de cœurs solitaires, à passer cette vie sous une serre, à espérer dans le noir, à espérer dans le noir. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, c'est l'un des films qu'on attendait certainement le plus en ce début d'année 2023. Et quel bonheur pour nous de recevoir aujourd'hui l'équipe du film Comme un prince qui sortira ce mercredi 17 janvier au cinéma. Et pour fêter ça comme il se doit, c'est un habitué de l'émission qu'on a reçu déjà plusieurs fois pour Candice Renoir. Et c'est sa première réalisation. On est d'autant plus fiers qu'il soit là avec nous, Ali Mariard. Bonjour Ali.
Bonjour, je suis très heureux d'être là.
Merci d'être là, t'es venu avec tes deux producteurs pour commencer déjà, avec Marie Jardilier qui est là, bonjour Marie.
Bonjour.
Et puis on a Yann Zeno qui est là, bonjour Yann.
Bonjour.
Les deux producteurs de ton premier film, c'est un événement évidemment, toujours un premier film. On va être rejoint en plus dans un instant par Ahmed Silla et Mallory et Avouanek. Franchement, quel bonheur on a vécu pendant 7h35, on a vu le film nous, avant tout le monde au Festival de Sarlat, on a été chanceux il y a quelques mois maintenant. Ça fait quoi Ali?
Bah déjà merci beaucoup, je suis très très heureux. On a mis pas mal de temps à fabriquer le film depuis l'écriture jusqu'au tournage, jusqu'à sa sortie, jusqu'à maintenant en fait, et on est très très heureux, très fiers maintenant des retours du public, ouais. En tout cas de ceux qui l'ont vu.
Alors, c'est beaucoup de premières fois dans ce film, je crois pour Marie aussi, puisque c'est quasiment une des premières productions, c'est pas la première pour Marie.
C'est la première.
tout à fait.
Alors, comment on dit oui justement à un projet comme celui d'Ali? Qu'est-ce qui t'a fait décider en tout cas pour toi? Et je vais poser la même question à toi, Yann, après.
À la base, Ali et moi, on travaillait sur un projet commun à des postes différents où il était auteur et acteur et moi j'étais assistante de production. Et ce qui a fait que Ali m'a intéressée, c'est qui il est déjà. Et donc pourquoi son projet m'a intéressée, c'est parce qu'il venait de lui. Et ensuite, les thématiques qu'il abordait sont des thématiques qui me touchent beaucoup. Et je trouvais que ce qu'il avait envie de défendre était des valeurs que j'avais envie de voir au cinéma. Et je crois que ce qui est important dans le métier de producteur, c'est aussi de faire des films et d'accompagner des films qu'on aimerait voir, quoi. Et c'était exactement ça.
Yann?
Eh ben en fait, il faut savoir que Marie et Ali ont développé ce film bien avant que j'intervienne dessus, pendant quoi, 4-5 ans. Mmh. Et puis, en fait, ce qui m'a décidé, ça était d'abord la lecture du scénario qu'ils avaient développé ensemble, qui m'avait beaucoup touché, comme disait Marie, avec un certain nombre de valeurs que moi aussi j'ai envie de défendre et que j'ai envie de porter. Et puis ça a été ces deux rencontres, d'abord avec Marie, dont j'ai adoré l'énergie, le professionnalisme, et puis après avec Ali, que j'ai tout de suite vu son talent. Et puis, ce qui est génial dans ces aventures, c'est que, évidemment, c'est des aventures artistiques, puis c'est aussi des aventures humaines. Mmh. Et j'en profite pour leur dire, parce que non seulement ça a été une aventure artistique formidable, mais aussi une aventure humaine. Moi, j'ai rencontré deux personnes que j'espère compter parmi mes amis encore dans les années qui viennent.
Comme un prince, on sent vraiment l'aventure humaine à tout niveau. Ouais. Parce que Ali, quand même, tu as été fidèle envers tes amis de Candice, puisque vous verrez que dans le film, Raphaël et Cécile font une petite apparition, mais remarquée quand même. Tu les as pas oubliés?
Non, je les oublie pas parce que on travaille ensemble depuis des années. J'écris mon premier film, je les fais participer à l'aventure, mais le casting en soi, général, j'ai envie de travailler avec mes proches, en fait, qu'avec des gens que j'aime et que avec les gens qui me connaissent, qui ont envie de me tirer vers le haut. D'ailleurs, c'est pour ça que dès le départ, je suis parti vers Marie en production parce que on est de la même génération, elle me connaît. Je savais qu'elle allait se battre pour le film et pour moi. Et donc, j'ai envie de me sentir en sécurité quand je travaille. Et quoi de mieux que de travailler avec ses amis?
Alors, on va y suivre dans cette aventure l'histoire de Souleyman, qui est un grand champion de boxe qui s'entraîne pour les JO, jusqu'au moment où un événement va faire que, malheureusement, il va être écarté de la Fédé et va devoir faire des travaux d'intérêt général. Il va se retrouver dans le magnifique décor du château de Chambord. Comment on fait, Ali, quand on fait un premier film, avoir comme décor le château de Chambord? Mais c'est un truc de dingue, ça, déjà.
C'est un truc de dingue. Moi, je suis un passionné d'histoire, en fait, d'histoire et de boxe. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans le film. Après, comment on fait pour travailler dans le magnifique château de Chambord? On écrit le scénario et on leur soumet. Et après, on attend leur réponse. Mais j'avais envie de tourner à Chambord plus qu'un autre château, parce que Chambord, fallait que j'isole le personnage principal. Et c'était important pour moi. Et Chambord, en fait, il faut savoir que c'est au milieu d'une forêt. Et la forêt, la superficie de la forêt, c'est Paris intramuros. Donc c'était formidable pour moi, comme mon personnage principal fait des travaux d'intérêt général. Il fallait quand même l'isoler et pour pas qu'il sorte facilement du château.
Et là, il va y faire la rencontre de Mélissa, incarnée par Mallory Ewanek, qui a été d'ailleurs primée pour le film Les Pires au Festival d'Angoulême, qui est une vraie révélation dans le film. C'est ici son premier grand rôle, on peut dire, en quelque sorte. Et Souleyman va projeter un peu sur elle, effectivement, ce que lui peut pas faire. Et vous allez voir, au travers d'aventures variées, mais c'est pas la seule rencontre qu'il va faire dans ce château.
Non, et Mallory a été primé au festival de Sarlat aussi l'année dernière pour Les Pires. Mais il va faire une autre rencontre, c'est la rencontre d'Eddie, qui est interprétée par Julia Piaton, qui est la directrice des événements culturels de Chambord. Et ils vont s'entendre très bien, en fait. J'essaye de montrer qu'il n'y a pas de frontières entre eux, même s'ils viennent d'univers différents, mais ils sont de la même génération, dans le même pays, ils partagent la même époque et ils ont à peu près les mêmes réflexions.
Et vous verrez que, justement, Julia, avec ce personnage d'Eddie, cache un secret sur son prénom. On ne vous le dévoilera pas, puisqu'il faudra rester jusqu'à la fin du film pour le savoir. C'est bien dit, Ali, hein?
C'est ça, c'est totalement bien dit. Ouais.
Bon, en tout cas, vous allez passer un merveilleux moment, c'est sûr, en allant voir ce film. Ça, c'est un vraiment gros premier coup de cœur de cette année 2024. On l'attendait avec impatience. pour le coup, ce film, tu nous en avais parlé il y a maintenant justement plus de 5 ans que tu commençais à travailler un peu là-dessus au Festival des Héros du Cinéma au Cap d'Agde, et on est très fiers d'être avec toi aujourd'hui. Quel était ton meilleur moment peut-être, Ali, sur ce tournage? Est-ce que tu as eu une scène particulière qui t'a marqué?
En fait, la chance de travailler avec ses amis, en fait, j'ai que des meilleurs moments. J'ai eu un tournage formidable. J'étais hyper bien entouré, hyper bien accompagné, que ce soit au niveau de la prod, au niveau des comédiens. Et donc, de toute façon, je suis quelqu'un, je me sécurise beaucoup. Donc, avant de me lancer, j'essaie de tout barricader. Donc, pour pas justement avoir de danger, de problème. Donc, en fait, j'ai eu que des meilleurs moments. Vraiment, j'ai passé un tournage formidable.
Comment vous vous sentez tous les trois là, à 2 jours de la sortie du film, quand le film va appartenir au public, qui plus est Marie quand c'est sa première production à soi et quand c'est son premier film? Yann, on va commencer pour leur laisser le temps de réfléchir.
Nerveux comme d'habitude, très très nerveux.
Ah bah ouais.
Avec les années, ça passe pas.
Ah ouais.
Nerveuse aussi, mais j'ai hâte que le public s'empare du film, et j'espère en grand nombre, mais que voilà, qu'on puisse partager. Les films, c'est fait pour être vu, donc qu'ils puissent être vus, et qu'on ait des retours, et que le film ait la vie qu'il doit avoir, quoi. Un peu hâte de découvrir quel va être son parcours.
Ali.
Moi, je suis très heureux. J'ai fait le film que je voulais faire, dans le ton que je voulais faire. Donc, j'ai travaillé toutes ces années justement pour en arriver là. Je suis très heureux. J'espère juste que le public sera au rendez-vous et appréciera le film. Passera en tout cas un bon moment lorsqu'il verra le film.
Bon, nous, ce soir, en tout cas, s'ouvre cette nouvelle édition du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Un film, évidemment, comme le tien, a pleinement sa place dans ce festival pour ce 15 janvier. Et j'espère, évidemment, que le film va beaucoup plaire, j'en suis sûr. Ça sort mercredi. Je vous souhaite plein de succès. On va écouter la bande-annonce. Ça va revenir juste après avec Ahmed Silla. On va revenir sur son tournage épique. J'ai fait un petit jeu de mots. Et puis avec Mallory également, qu'on va retrouver après les pires. Avec grand plaisir. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup.
Merci, merci, merci.
Comme un prince, c'est mercredi au cinéma. Voici la bande-annonce.
On est très attendus sur ces Jeux Olympiques, les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable.
Bon, les gars,
le mec, il a porté plainte, on fait quoi maintenant?
Moi, j'ai rien fait, moi.
C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché.
De quoi vous me parlez, la gosse?
La gosse.
Mais moi, c'est bagarre, moi.
Ouais, c'est bagarre. Les tiges, c'est pas les vacances.
Souleymane, il va être avec nous pendant quelques mois, là, au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà.
Bah, nous, on a rien fait, on est là, gros.
Si vous vous approchez de la boxe, de près, de loin, c'est la prison.
Serge-toi.
Garde ta jambe gauche devant, t'auras plus de stabilité.
Ton boulot, c'est que tu vas dans les écuries, tu nettoies tout le crottin partout, tu fais ça bien, nickel.
Oh putain, sérieux?
T'as pas peur des chevaux, toi?
Non.
Bon bah ça va bien se passer alors.
Bah oui, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Wow.
Tu rentres, tu cours, bouclier et tu tombes.
Je rentre, je cours, bouclier, je tombe.
Ah hey, mais t'es à fond, toi!
Voilà ce que je te propose, moi. Je t'entraîne à la boxe, tu deviens une grande championne, hein.
Je veux 10 000 euros.
Je pensais plus à 15 euros, moi.
Ok.
Allez, on continue notre spécial Comme un prince, on vous le disait, un de nos plus gros coups de cœur de ce début d'année 2024. Et on a la chance, bien d'avoir les comédiens, on vous le disait, chose promise, chose due. Mallory Wanek qui est avec nous. Bonjour Mallory.
Bonjour.
On retrouve après les pires. Ouais. Donc t'as été primé en plus, t'as eu des prix là-dessus. Franchement, ça c'est un super souvenir qu'on a avec toi en tout cas. Et puis un habitué d'émission, presque un sociétaire. Un plaisir non dissimulé à chaque fois qu'il est avec nous, parce que c'est toujours la banane avec lui. C'est Ahmed Silla. Bonjour Ahmed.
Bon, ça va Alain, ça va super.
Ça va super bien quand vous êtes là. Et puis en plus, ce film il fait du bien. Et je crois qu'en ce début d'année 2024, c'est ce qu'on a besoin, d'avoir des films qui font du bien, des belles histoires. Il y a plein de choses qui se passent. On a planté un peu le décor avec Ali, Marie et Yann justement. On y suit le parcours de Souleymane, de Mélissa, et puis aussi de Eddie et Julia Piaton qui incarne Eddie. Et franchement, c'est une très belle histoire de boxe. C'est ce qu'on disait. Du coup, tu transposes un peu sur Mélissa ce que tu peux plus faire, puisque t'es condamné à des travaux d'intérêt général au château de Chambord. Mais alors déjà, quand on te dit, tu vas aller tourner au château de Chambord, cette histoire, Ali Maria, premier film, ça a dû être un mélange d'émotions quand vous avez lu le scénario, quand on vous a proposé ces rôles à tous les deux.
C'est exactement ça. Franchement, t'as tout dit, le scénario était formidable. C'est un des plus beaux scénarios que j'ai lu, vraiment. Je l'ai lu en 3-4 heures, je l'ai rappelé tout de suite après, je lui ai dit, tu fais
ce film avec personne d'autre que moi. Voilà, je l'ai menacé. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu obtenu le rôle en définitive.
Sinon, tu y as dit que tu brûlais le château.
Exactement. Et il n'y avait plus de château. Non, c'est une formidable histoire avec un casting vraiment merveilleux. Une génie en devenir qui travaille et qui va travailler encore davantage. Et un super metteur en scène. Vraiment, Ali, il va falloir compter sur lui dans les années à venir. Hein. Parce qu'il va nous pondre, en tout cas j'espère, d'autres films et d'autres histoires comme ça. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un film qui fait du bien. Et vraiment, voilà, on en a besoin. Des films, des histoires simples, mais où voilà, y a beaucoup d'amour, des belles valeurs.
Des messages positifs.
Exactement, des messages positifs. Il y a une relation hyper saine avec Mallory, Mélissa dans le film. Ouais, c'est un film qui fait du bien, quoi. Moi, je suis très heureux et très, 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 très fier de ce film. Et on m'a jamais vu comme ça. Donc merci.
C'est vrai, vous allez voir, on va d'ailleurs essayer de savoir un peu comment tu t'es préparé à ce rôle. Mallory, toi, comment t'as réagi quand t'as lu le scénario, quand t'as su que t'allais faire le film?
Quand j'ai lu le pitch du personnage, que j'ai vu que c'était sur la boxe, que j'ai vu que c'était une fille, un personnage quand même assez proche de moi, assez dur et en même temps hyper sensible, j'ai trop kiffé. Et puis après j'ai passé un casting, Ali qui était super sympa, après donc la lecture du scénario, c'est vrai que ça a été hyper rapide, en un jour je l'ai lu, en un jour alors que toi 3-4 heures, mais moi je ne suis pas aussi rapide. Et j'ai la relation avec Souleyman, mon rôle, le truc sur la boxe, vraiment quand j'ai lu le rôle et que j'ai vu que c'était sur la boxe, j'ai fait ok c'est pour moi, faut que je le fasse, j'adore ce rôle. Et le scénario était trop bien écrit et Ali, comme j'ai dit, était super sympa déjà dès le casting, donc c'était trop bien.
Comment vous êtes préparés tous les deux, justement? Un peu de préparation physique, alors surtout Mallory, parce qu'elle en prend quelques-unes.
Ouais. On s'est bien préparé pendant 3-4 mois à s'entraîner, à faire de la boxe à BAM L'Héritage, au Muro. Et ouais, grosse prépa physique. Moi, j'ai dû prendre du poids. Et c'était trop bien. J'ai trop kiffé. C'était hyper intensif, mais moi, j'ai trop kiffé. On s'entraînait avec l'équipe de France. Et avant, je m'entraînais vite fait avec un coach comme ça, sur internet, quoi. Et non, j'ai trop kiffé. J'ai dû prendre de la masse. C'était trop bien. C'était trop bien. Pouvoir s'entraîner avec des professionnels, tout ça, j'ai trop kiffé.
Et pour toi, on peut dire, Ahmed, sans faire de jeu de mots, que ça a été un tournage épique.
Exactement. Non, mais c'est franchement, moi, c'est un tournage où j'ai énormément appris, tant déjà sur le plan physique. Voilà. J'ai pris j'impose un peu plus musclé. Un peu plus de testostérone. j'ai tronqué les talons pour les gants de boxe. Et en plus, moi qui adore me déguiser, qui adore enfiler des costumes.
Ah, là, vous allez être servi, là. Je peux vous dire, vous allez voir Ahmed comme vous l'avez jamais vu. Et cette petite perruque blonde te va ravir.
C'est vrai, c'est ça. Franchement, cette perruque, moi, ça m'a ramené à mes premiers amours.
Rien que pour ça, vous regretterez pas votre place de cinéma.
Ah ouais, là, non, vraiment, c'est un film complet. Il est drôle, il est touchant.
Julia est géniale aussi, évidemment. T'avais jamais joué avec elle, hein?
J'avais jamais joué avec elle. Quel bonbon, quelle femme. Ouais, incroyable. Une bosseuse hors norme, vraiment. Elle est venue préparer. Déjà, juste en lecture, elle connaissait déjà son texte quasiment. C'est-à-dire qu'elle avait déjà travaillé le texte. Elle se l'était remis en bouche, etc., etc. Elle m'a mis la pression. Elle m'a mis la pression. Je me suis dit, ok, Ahmed, faut que tu sois vraiment au diapason. Là, faut que tu upgrades. Et que tu tiennes le cap pour être crédible dans ce film. Ça, c'était le maître mot, c'était la crédibilité. Je voulais qu'on croie au personnage et je voulais que la confiance que m'avait apporté Ali pour ce film, elle ne soit pas trahie.
Il y en a une qui te met bien au diapason quand même dans le film, hein. C'est Cécile Bois. Il y a une scène avec elle, mais elle est anthologique, hein, celle-là.
Elle est anthologique. C'est incroyable. Non, mais et pareil, c'est la femme, quoi, hein.
Elle en impose.
Elle est. Ouais, c'est la chef, quoi. C'est la patronne. Et moi, du coup, je me fais tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Et non, c'est une très belle scène. Et ça lance en plus l'histoire entre Julia et moi. Donc, j'ai envie de le retourner, ce film.
T'as envie de faire une suite? On a bien compris. Donc soyez nombreux mercredi dans les salles. Voilà, c'est important, ce 17 janvier, on vous attend. Évidemment, très nombreux dans les salles. Et puis peut-être ça donnera envie à Ali qu'on retrouve peut-être Mélissa et Souleymane. Je suis sûr qu'ils ont peut-être pas dit leur dernier mot. Ça serait ça serait chouette, comme deux princes. J'ai déjà trouvé le titre. Je prends 10%. Vous inquiétez pas.
Non, mais comme un prince numéro 2 ou alors retourner juste comme un prince en fait. Ouais. La même histoire, les mêmes endroits, avec les mêmes personnes.
On refait le même film.
Exactement.
Quand vous êtes arrivé au château de Chambord et que vous avez vu votre terrain de jeu, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un décor pareil pour tourner, quoi.
Et en plus, on a eu la chance d'avoir, enfin moi en tout cas, j'avais accès VIP à toutes les pièces où on n'est pas forcément le droit d'y aller, quoi. Ouais. Et en plus, visite guidée, il y avait quelqu'un de super sympa qui m'a fait une petite visite guidée et le jardin était ouf et on a eu énormément de chance. Et c'est super beau, j'ai trop kiffé. Les escaliers là, en demi, à double vis, exactement. Et même les petits détails, les salamandres sur les murs, c'était trop beau, trop beau.
Ça fait quoi de dormir avec Jonathan Lambert, Ahmed ?
Alors, ça fait Gilly. Ça fait Gilly. Non, ça c'est un acteur de fou. Moi, je suis fan des deux Jonathan, Jonathan Cohen et Jonathan Lambert dans le film. Ils sont extraordinaires. Ils m'ont donné du fil à retordre parce qu'il fallait que je tienne le cap. Il fallait pas que je renvoie la balle de tennis. Moi, je suis un joueur. Tu me fais rire, j'ai envie de te faire rire. Et là, du coup, mon rôle, il s'y prêtait pas. Mon rôle, il est pas drôle dans le film, donc il fallait que je sois, que je tienne le cap. Et c'est pas facile, hein. Quand on a deux monstres comme ça de l'humour.
Jonathan Cohen, mais enfin fidèle à lui-même, quoi. Ouais, hein, je veux dire. Hein.
Fidèle à lui-même. Voilà. Il m'a tué de rire. C'est-à-dire que la séquence qu'on a lui et moi dans le bar, la première bonne prise, je crois qu'on a mis peut-être 2h30, 3h avant de la voir, parce que j'étais tout le temps en train de rigoler. Parce que à chaque prise, il faisait une proposition. C'est ouf.
Ah, non mais c'est assez dingue. À un moment donné, t'as presque l'impression d'être dans la flamme ou le flambeau, quoi.
C'est ça. C'est ça. Non mais c'est tout Jonathan qu'il est. Il arrive à apporter ça dans un personnage. Voilà, c'est son petit. Comment je peux appeler ça? Son petit zeste de Jonathan, quoi. Voilà, tous les amoureux de Jonathan Cohen vont apprécier de le voir dans le film.
Alors, à deux jours de la sortie du film, j'ai posé la question au réal pour le coup et producteur. Est-ce que pour vous la pression est aussi forte quand on est à deux jours de la sortie d'un film comme ça qui va appartenir au public?
Oui, bien sûr, de le partager, de le montrer à tout le monde, d'avoir des retours évidemment. Donc, mais trop hâte, j'ai trop hâte de le montrer, de pouvoir dire à mes potes allez au cinéma le voir, venez, on va le revoir aussi une dizaine de fois au cinéma. Donc un peu de pression, mais surtout j'ai hâte.
Et puis c'est toujours un petit miracle un film. Du moment où le réalisateur écrit son film, en passant par le financement, le tournage, et puis l'arrivée en salle, c'est un petit miracle tout ça. On est des chanceux de faire ce métier, de proposer des films, de proposer du contenu pour le public, pour les spectateurs. On sait que c'est des moments qui sont importants pour eux, qui leur permettent d'échapper un petit peu au quotidien. On rentre dans une histoire et pendant 1h30, on est tous ensemble, on s'en fout de qui y a dans la salle. On prend du plaisir. Et donc ouais, ça met la pression parce qu'il faut pas trahir ce public-là qui paye sa place et qui a envie de partager un bon moment, quoi.
Puis le programme est chargé pour toi, Ahmed, puisque depuis maintenant plus d'une semaine, Ahmed est de retour sur scène et va passer à plein d'endroits dans notre région qu'on vous donnera quelques dates juste après. Un petit extrait, mais ça y est, retour sur scène.
Ça y est, retour sur scène. Là, d'ailleurs, je finis cette interview et je file derrière en tournée encore. Bah, ça m'avait manqué, hein. Ça faisait 5 ans là que j'étais pas remonté sur scène. Le public m'avait manqué.
On va aller te voir en février, ça passera à Poitiers notamment, au Futuroscope le 17 février notamment, et je vais vous donner plein d'autres dates d'ici quelques instants, mais on sera là avec toi évidemment. Alors, les projets, raconte pour 2024, parce qu'à mon avis, après les pires, et comme un prince, on n'a pas fini de te voir.
Pour 2024, bah du coup, il y a celui-là, et après, j'ai fait un film avec François Civil sur le harcèlement scolaire, un film de Teddy Lucie Modeste, où je fais la petite peste, la petite harceleuse finalement. C'était kiffant, c'était un truc où il y avait plein de jeunes, donc c'était kiffant. Et après, j'ai fait le prochain film de Gilles Lelouch avec Adèle Exarchopoulos et François Civil sur Le Premier Amour, qui était un tournage complètement fou de 5 mois, hyper intensif, qui sortira en octobre 2024. Et puis là, en mars, je fais aussi encore un tournage de Mélissa Drijard sur Le Gang des Amazones, c'est 5 mères au foyer qui braquent des banques. Donc on enchaîne et je suis trop contente, je fais plein de trucs différents, des rôles assez différents, avec que des réalisateurs hyper sympas, que avec des acteurs hyper sympa, donc je kiffe et j'enchaîne de ouf et c'est trop bien et je suis trop contente.
Dis donc, en 2 ans tout a basculé pour toi là.
Non mais c'est fou, non mais c'est fou, tu sais que des fois je me repose dans le lit, non et des fois je me repose dans mon lit et je me dis putain mais comment tout ça, à quel moment, et je réalise pas, et en même temps heureuse, enfin je réalise pas encore, et en vrai heureusement parce que du coup je me mets aucune pression et voilà.
Important de pas se mettre la pression, ouais. et en tout cas, eh bien, on va tous aller voir Comme un prince. Si vous êtes sous pression, ça va complètement vous détendre et vous allez voir en plus un super film. C'est mercredi au cinéma. Merci à tous les deux. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On est très heureux en tout cas de soutenir ce premier film d'Ali et que vous soyez là avec nous pour en parler. Merci Ahmed. Merci Mallory.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et vous pourrez retrouver Ahmed Silla le 15 février à Biarritz, le 16 février, le 12 avril à Bordeaux, le 17 février au Futuroscope, le 9 mars à Nantes, du 31 mai au 9 juin au Casino de Paris, le 16 novembre à Niort et le 15 décembre à Mouilleron le Captif en Vendée. Lundi prochain, nous aurons deux coups de cœur ciné avec Si proche du soleil et L'homme d'argile. Et nous aurons le plaisir de recevoir également Annie Dupéré pour Mort d'un berger sur France 3.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android Chute. On écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chut, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.